Depuis toujours, la guerre incarne la rupture absolue, l'effondrement des règles, le moment où l'humanité semble vaciller, où les comportements échappent à toute limite. On la décrit comme un espace où plus rien ne tient, où la violence reprend ses droits primaires, et pourtant, depuis un siècle et demi, un phénomène inattendu s'est imposé, la volonté de placer la guerre sous le règne du droit. C'est l'ambition du droit international humanitaire, introduire des normes au cœur même de l'exception, tracer des frontières dans la violence, distinguer ceux qui peuvent être visés de ceux qui doivent être protégés, limiter les moyens de combattre. Ce droit n'a jamais prétendu abolir la guerre, mais il a profondément transformé notre manière de la penser, de la conduire et même de la juger. Il l'a humanisée en partie, il l'a aussi rationalisée sans aucun doute, et parfois il en a paradoxalement normalisé la pratique. Ce mouvement dit quelque chose de plus profond encore, la façon dont le droit cherche toujours à redessiner notre monde, y compris dans ses zones les plus indomptables. Et si l'on peut s'interroger sur la capacité du droit international à réellement contraindre le recours à la force depuis 1945, un constat demeure: on assiste globalement à une diminution des crimes de guerre, des violences délibérées contre les civils et des méthodes les plus brutales. Les entorses qui subsistent aujourd'hui sont immédiatement surveillées, nommées, exposées et poursuivies plus rapidement que jamais dans l'histoire, en témoignent les récents conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Alors comment comprendre ce paradoxe? Comment un ensemble de règles conçues pour limiter les souffrances a-t-il pu redessiner notre rapport moral, politique et juridique à la guerre, tout en produisant des effets ambigus, parfois même contre-intuitifs? Comme vous l'avez compris, ce podcast vous propose de comprendre comment le droit international humanitaire redessine notre rapport à la guerre. Nous reviendrons d'abord sur sa naissance au 19e siècle, quand l'idée même d'imposer des limites à la violence semblait presque inconcevable. Nous verrons ensuite comment ce droit a transformé la guerre en la classant, en distinguant les civils des combattants, les objectifs militaires des biens protégés. Nous analyserons également comment le langage juridique, proportionnalité, nécessité, précaution, à rationaliser les opérations militaires. Nous découvrirons enfin les acteurs qui font vivre ce droit au quotidien, avant de nous interroger sur ses effets et ses paradoxes. Humanisation réelle de la guerre, mais aussi normalisation de la violence. Autrement dit, comment un droit pensé pour limiter la guerre finit parfois par la rendre plus pensable.
Des soldats qui ont fusillé d'autres. Mais c'est pas possible. Cocher,
Seigneur.
Arrêtez,
Seigneur.
Monsieur l'officier, pourquoi tire-t-il sur ces hommes?
Ces hommes, ce sont des Autrichiens.
Ils sont désarmés, prisonniers.
Justement, des prisonniers, ils nous encombrent.
Vous n'avez pas le droit, c'est monstrueux. D'abord, qui êtes-vous? Que faites-vous ici?
Précisément, monsieur l'officier.
Lieutenant!
Pardon, mon lieutenant, nous aurions voulu vous demander où se trouve l'empereur.
L'empereur? Il est dans sa culotte, l'empereur.
C'est une fin de journée de juin 1859 dans le nord de l'Italie. La bataille de Solferino vient de s'achever. Elle a opposé les troupes piémontaises et françaises à l'armée autrichienne. Et elle laisse surtout derrière elle un paysage que les témoins de l'époque décriront comme un océan de souffrance. Partout, des corps étendus, des blessés agonisent sans secours, les soldats survivants se sont retirés, les médecins sont dépassés, les villageois terrifiés, incapables de comprendre l'ampleur du carnage. Un homme traverse ce champ de désolation, il s'appelle Henri Dunant. Dans l'extrait sonore que vous venez d'entendre, tiré du film de Christian Jacques, sorti en 1948, il est interprété par Jean-Louis Barrault. Mais en 1859, Dunant n'est rien de tout cela, ni militaire, ni médecin, ni diplomate. Il est simplement un témoin confronté à la solitude absolue des blessés, à l'abandon total des vaincus comme des vainqueurs. Et cette vision, pour lui, est intolérable, même dans la guerre. L'idée que le conflit puisse tout justifier jusqu'à laisser mourir ceux qui ne peuvent plus combattre lui paraît profondément inhumaine. Alors, Dunant ne se contente pas de regarder, il agit, il écrit, il alerte, il mobilise. Et de cette indignation naît l'un des plus grands mouvements humanitaires de l'histoire moderne. Quelques années plus tard, en 1864, est signée la première convention de Genève, un traité fondateur, encore modeste, mais révolutionnaire dans son ambition, protéger les blessés de guerre, quelle que soit leur nationalité, et garantir l'action des secours. Un siècle plus tard, en 1949, les quatre grandes conventions de Genève élargissent cette architecture. La première protège les blessés et malades sur le terrain, la deuxième s'étend aux naufragés en mer, la troisième définit le statut des prisonniers de guerre, la quatrième protège les civils en temps de conflit. Les protocoles additionnels de 1977 parachèveront cet édifice en intégrant les guerres civiles et en renforçant la distinction entre civils et combattants. À partir de ce moment, quelque chose bascule. La guerre, longtemps perçue comme un fait brut, indomptable, presque naturel, commence à être envisagée comme une pratique que l'on peut encadrer. un espace où l'on peut imposer des valeurs, humanité, protection, dignité, la même où dominait jusque-là l'excès, ce n'est pas seulement l'apparition d'un nouveau corpus juridique, c'est l'affirmation d'une idée neuve sur ce qu'est un être humain et sur ce qu'il doit rester, même plongé au cœur de la violence. La guerre n'est plus seulement un champ de bataille, elle devient un terrain où une norme peut exister, un lieu où la règle tente, pour la première fois, de rivaliser avec la force. Et ce geste, introduire du droit là où tout semblait échapper au droit, marque le début d'une reconfiguration profonde de notre rapport à la violence. Ce basculement est d'autant plus spectaculaire qu'il s'oppose frontalement à la vision dominante de la guerre au XIXe siècle, une vision stratégique héritée d'une longue tradition intellectuelle pour laquelle la guerre, par essence, ne connaît aucune limite. Clausewitz, dans De la guerre, en formule l'expression la plus célèbre. Je cite « La guerre est un acte violent dans lequel l'emploi de la force étant illimité, chacun des deux adversaires impose à l'autre sa loi, d'où résulte une influence réciproque qui, de part et d'autre, doit conduire à l'extrême. » Dans cette conception, la guerre est un enchaînement logique, presque mécanique, deux volontés s'affrontent et, pour triompher, chacune cherche à pousser la violence au maximum. La violence n'y est pas un incident, elle en est la logique première. Or, ce que Dunant découvre à Solferino et ce que les premières normes humanitaires vont inscrire dans le droit affirme précisément l'inverse, l'idée qu'il existe des limites, même lorsque tout semble appelé à l'extrême, que l'être humain ne disparaît pas dans le tumulte de la bataille, que la guerre peut et doit être domestiquée, canalisée, contenue. Entre Solferino et Clausewitz, deux visions du monde se répondent. L'un voit la guerre comme un champ illimité où la force règne sans entrave. L'autre affirme que, même au cœur de la violence, il reste quelque chose à sauver, la dignité humaine. C'est dans cette tension entre le mouvement naturel vers l'extrême et l'effort juridique pour imposer des limites que va se développer tout le droit des conflits armés, un droit né d'une contradiction et qui n'a cessé depuis de redessiner notre rapport à la violence. Après Solferino, une idée simple mais révolutionnaire s'impose progressivement. Pour limiter la violence, il faut d'abord organiser la guerre, la penser, la découper, la classer, parce que le droit, avant d'interdire, commence toujours par nommer, et en nommant, il ne se contente pas de décrire le réel, il le reconfigure. C'est exactement ce que va faire le droit international humanitaire à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Il transforme la guerre, cet espace réputé illimité, démesuré, livré à la seule logique de la force, en un territoire structuré, traversé de distinctions fondamentales, des distinctions qui, encore aujourd'hui, façonnent notre manière de comprendre qui peut être visé, qui doit être protégé, et ce que la violence a réellement le droit d'atteindre. Pendant des siècles, la guerre ne distinguait pas réellement ceux qui combattaient de ceux qui se trouvaient simplement sur leur chemin. Les armées réquisitionnaient les récoltes, incendiaient les villages, punissaient collectivement les populations. La violence était diffuse, englobante, indifférenciée, elle frappait tout ce qui se trouvait à proximité du champ de bataille, et parfois bien au-delà. La grande innovation du droit humanitaire consiste à imposer une séparation nette, presque ontologique, d'un côté ceux qui participent aux hostilités, de l'autre ceux qui doivent être protégés. Avec la 4e convention de Genève de 1949, puis les protocoles additionnels de 1977, cette distinction devient un pilier absolu de la guerre moderne. Le civil n'est plus seulement celui qui n'est pas soldat, il devient un statut juridique protégé, doublé d'une interdiction claire et catégorique de toute attaque directe. Et cette séparation n'est pas qu'un outil technique, elle crée une vision du monde. Elle dit « La violence ne peut pas être distribuée au hasard, elle doit être dirigée uniquement contre des cibles légitimes. Tout le reste, enfants, blessés, vieillards, humanitaires, journalistes, devient juridiquement intouchable. C'est, en un sens, une fiction juridique, mais une fiction performative. » Lorsqu'on décrète qu'une personne est civile, on prescrit une manière de la regarder, une manière de la traiter et une manière de la protéger. Un mot suffit à transformer l'espace de guerre. L'autre transformation majeure concerne la figure du prisonnier. Avant l'apparition du droit humanitaire moderne, le prisonnier était un trophée, un fardeau, un survivant encombrant, abandonné aux caprices du vainqueur. On le privait, on l'humiliait, on l'exploitait, souvent on l'exécutait. La 3e convention de Genève renverse radicalement cette logique. Elle instaure un statut juridique clair, précis, détaillé. Le prisonnier doit être nourri, soigné, logé décemment, il doit être protégé contre la violence, l'intimidation, les insultes, il doit pouvoir écrire à sa famille, pratiquer sa religion, exercer un recours minimal, il ne peut être torturé, exposé ou humilié. Ce statut crée des obligations strictes, il produit une transformation anthropologique. Le prisonnier de guerre n'est plus un vestige du combat que l'on peut traiter selon l'arbitraire du vainqueur. Il devient une personne instituée par le droit, dont la vulnérabilité crée un devoir. Même celui qui vous a combattu reste un être humain détenteur de droits que la victoire ne peut effacer. Mais le droit ne classe pas seulement les personnes, il classe également l'espace. Il distingue un hôpital d'un dépôt de munitions, une école d'un centre de commandement, un pont civil d'un pont stratégique. La première et la quatrième convention de Genève, puis les protocoles additionnels de 1977, définissent avec une précision presque chirurgicale ce qui peut être attaqué et ce qui doit être impérativement épargné. Dès lors, une frappe ne peut plus être un acte purement militaire, elle devient un acte juridiquement qualifié. On doit vérifier la nature de la cible, évaluer le risque pour les civils, adapter les moyens employés, renoncer si le coût humain est trop élevé. Cette obligation de penser avant de frapper transforme profondément la manière de mener la guerre, là où la logique de Clausewitz poussait vers l'extrême, la maximisation de la force, la logique juridique impose des limites matérielles, la guerre devient une activité sélective, orientée, argumentée, chaque projectile doit pouvoir être justifié. Ce qui est essentiel ici, c'est de comprendre que ces catégories, civils, combattants, prisonniers, objectifs militaires, n'existent pas naturellement, elles ne sont pas des données du réel, ce sont des inventions normatives, et parce qu'elles sont inventées, elles transforment la réalité, elles produisent à la fois des comportements nouveaux, des attentes nouvelles, des responsabilités nouvelles, un langage pour parler de la violence, et même une morale implicite de la guerre. En distinguant, le droit fabrique un monde où la guerre n'est plus un chaos indifférencié, mais une pratique encadrée, ordonnée, hiérarchisée, et donc pensable. Le droit redessine ainsi la violence en reconfigurant ce qu'elle a le droit de toucher, ce qu'elle peut atteindre, ce qu'elle doit épargner. C'est la première grande manière dont le droit transforme la guerre, non pas en la supprimant, mais en la reconfigurant de l'intérieur. Mais classer la guerre ne suffit pas. Une fois les distinctions posées, une autre transformation s'opère. Le droit ne se contente plus de découper la violence, il lui donne un langage qui structure les opérations, façonne les décisions et impose un cadre mental à ceux qui les mènent. Eh bien, c'est ce que nous allons explorer, désormais. Après avoir classé la guerre, le droit accomplit une autre transformation tout aussi profonde. Il lui donne un langage, une grammaire, un vocabulaire technique qui, petit à petit, ne sert plus seulement à décrire ce qu'il se passe, mais à orienter ce qui peut se passer. Aujourd'hui, les conflits armés sont saturés de mots juridiques, proportionnalité, nécessité militaire, dommages collatéraux, objectifs légitimes, précautions, cibles valides. Des mots qui ne relèvent ni de la stratégie pure, ni de la morale abstraite, ce sont des notions juridiques, des concepts opératoires qui bornent la violence, qui en sculptent les contours. Ce langage n'est pas décoratif, il n'est pas là pour accompagner la guerre, ni pour en proposer une lecture secondaire, il modifie directement la manière dont les armées planifient et mènent leurs opérations. Un chef militaire ne peut plus décider d'une frappe uniquement selon des critères tactiques, il doit désormais la qualifier juridiquement, il doit se demander... La cible est-elle un objectif militaire ? Existe-t-il un risque pour les civils ? Ce risque est-il proportionné à l'avantage militaire attendu ? Pouvait-on attendre le même résultat par des moyens moins destructeurs ? Ce processus transforme la frappe en un acte à double dimension, à la fois opérationnel, mais aussi juridique. Le langage du droit devient une forme de rationalisation de la violence. Il oblige à la peser, à la mesurer, à la justifier, à l'anticiper. Il fait entrer la violence dans une logique argumentative. Ce n'est pas seulement une contrainte, c'est une manière de penser la guerre autrement. La guerre cesse d'être un pur affrontement de force, elle devient un espace d'évaluation, de justification, de responsabilité. Ce langage ne flotte pas dans les airs, il s'ancre dans un ensemble d'écritures juridiques d'une densité impressionnante. Les conventions de Genève, leurs protocoles additionnels, les conventions interdisant les armes chimiques, biologiques, aveuglantes, les mines antipersonnelles, les armes à sous-munitions... Tout cela compose une architecture normative extraordinairement précise, des centaines d'articles, de définitions, de catégories, de procédures, des pages et des pages qui décrivent ce qu'il est permis de faire, ce qu'il est interdit de faire, ce qu'il est permis de viser, ce qu'il faut absolument éviter. Cette écriture transforme la guerre en une activité double, militaire et bureaucratique. Rien n'est laissé au hasard, les armées produisent des rapports, des évaluations de frappe, des cartes annotées, des dossiers de ciblage. Les conseillers juridiques, les legal advisors, assistent aux réunions opérationnelles. Les décisions sont archivées, documentées, justifiées. La guerre devient un espace saturé d'écritures où chaque geste s'inscrit dans une chaîne de responsabilité. On dit parfois que l'État moderne naît dans la bureaucratie. D'une certaine manière, la guerre moderne naît dans la bureaucratie juridique. Mais le droit ne fait pas que commenter la guerre ou en fixer les limites. Il produit des effets matériels très concrets. Interdire une arme, définir un statut, poser une limite, ce ne sont pas des symboles, ce sont des actes qui transforment physiquement le champ de bataille. Lorsque l'usage des armes chimiques est proscrit après la Première Guerre mondiale, c'est tout un pan d'arsenaux, de doctrines, de formations militaires qui disparaît. Lorsque les mines antipersonnelles sont interdites en 1997, des millions de dispositifs sont détruits, des armées révisent leur stratégie défensive, des territoires deviennent à nouveau accessibles, des civils survivent. Quand le droit qualifie une infrastructure de bien civil protégé, on renonce à la frapper ou l'on engage sa responsabilité en le faisant. Quand une personne devient prisonnier de guerre, elle sort du champ de la violence immédiate, elle est protégée, surveillée, recensée, visitée par le CICR. C'est cela la performativité du droit. Le droit fait quelque chose au monde, il n'est pas un commentaire après coup, il fabrique la guerre différemment. Il l'oriente, la contraint, lui impose un cadre, une forme, une structure. La garde moderne n'existerait pas de la même manière sans ce droit. Elle n'aurait ni les mêmes armes, ni les mêmes cibles, ni les mêmes gestes, ni les mêmes mots.
Le sang et les corps vus du ciel. L'ampleur des massacres à El Fasher est telle que des chercheurs ont pu tracer par satellite les exactions commises dans cette ville soudanaise. Exactions attribuées au FSR, les forces de soutien rapide. Cette milice qui contrôle désormais l'essentiel du Darfour a repris la ville à l'armée soudanaise dimanche. L'université de Yale s'est basée sur des images satellites pour démontrer l'existence de massacres. Dans une maternité où l'on estime que 460 personnes ont été tuées, ou encore à l'université de la ville.
La coloration rouge apparaît systématiquement à côté de formes ayant une proportion similaire à celle d'un corps humain. Les images satellites nous permettent déjà d'affirmer qu'il y a eu d'importants massacres.
Le droit international humanitaire n'existe pas seulement dans les traités ou les grands principes abstraits. Il vit à travers celles et ceux qui le manipulent, l'interprètent, le surveillent, l'appliquent ou le revendiquent. Et contrairement à ce que l'on imagine parfois, ce ne sont pas les tribunaux qui en sont les principaux gardiens. La guerre ne se gagne pas dans une salle d'audience, elle ne s'y perd pas non plus. La force réelle du droit humanitaire repose sur une constellation d'acteurs étatiques, militaires, humanitaires, médiatiques qui, ensemble, lui donnent sa portée, mais aussi ses limites et parfois ses ambiguïtés. Dans l'imaginaire collectif, le droit est associé au juge, une figure neutre, impartiale, qui sanctionne les violations. En réalité, dans les conflits armés, le juge intervient peu. Les tribunaux comme le TPY, le TPIR ou la CPI sont rares, lents, politiquement fragiles. Ils disent ce qui aurait dû être fait, mais jamais ce qui doit être fait sur le moment. Leur rôle est essentiellement symbolique. Ils rappellent que les crimes de guerre sont des crimes, qu'ils peuvent être jugés, que la violence n'est pas hors du champ du droit. Mais la véritable contrainte juridique, celle qui agit pendant la guerre, ne vient pas d'eux. Le cœur de la normativité du droit humanitaire se trouve dans les armées elles-mêmes. Aujourd'hui, dans presque tous les états-majors, on retrouve un acteur devenu indispensable, le legal advisor, le conseiller juridique militaire. Sa mission, assister les commandants, évaluer les opérations, anticiper les risques juridiques, vérifier la légalité des frappes, des arrestations, des occupations. Chaque opération devient un acte à double dimension, tactique et juridique. La norme n'est plus extérieure à la guerre, elle en devient une composante interne, un paramètre de planification. Dans certaines armées occidentales, cette internalisation est telle qu'elle conditionne la manière de choisir les cibles, d'élaborer les règles d'engagement, voire de conduire la bataille elle-même. Le droit n'est plus seulement une limite, il devient un outil opérationnel. À côté des armées, une autre force façonne le droit humanitaire, celle des acteurs non étatiques, ONG, Croix-Rouge, journalistes d'investigation, observatoires citoyens, analystes en open source, tous participent à une surveillance mondiale et permanente de la violence. Ils collectent des images, décryptent des vidéos, analysent des restes d'armes, recoupent des témoignages. Ils nomment les violations, exposent les manquements, documentent les crimes. Mais même lorsque le juge ne peut pas intervenir, même lorsque l'État le nie, le droit existe aussi parce que quelqu'un observe, parce que quelqu'un montre, parce que quelqu'un compare, accuse, rend visible. Le droit humanitaire tire une partie de sa force de cette vigilance diffuse. Enfin, le droit devient aujourd'hui une arme stratégique. Les États s'en servent pour justifier leurs actions. Nous avons ciblé un objectif militaire légitime, l'attaque était proportionnée, l'ennemi utilise des boucliers humains. Et inversement, chaque violation présumée devient un argument pour délégitimer l'adversaire. Le droit devient alors une arme narrative, une manière de gagner la bataille de l'opinion, d'imposer un récit moral de la guerre. C'est ce que certains appellent le lawfare, la guerre menée par le droit, par les mots, par les interprétations.
Ce soignant brandit une blouse tachée de sang quand une première frappe touche l'hôpital. Sous les cris, les occupants se mettent à l'abri, puis se précipitent pour évacuer les blessés. Sur cet escalier éventré, secouristes et journalistes s'affairent lorsque soudain, une deuxième frappe retentit. À nouveau, les images qui suivent sont terribles. Selon des témoins, les victimes ont été délibérément visées par ces attaques successives.
À ce stade, une question se pose : qu'a réellement produit le droit humanitaire sur la guerre ? Il serait absurde d'en nier les effets. Le droit a rendu certains aspects de la guerre indéniablement plus humains. Grâce au droit humanitaire, des catégories entières de personnes sont protégées : les blessés, les naufragés, les prisonniers, les civils, les humanitaires, les enfants. Certaines armes sont interdites : armes chimiques, biologiques, aveuglantes, mines antipersonnelles. Certaines tactiques sont proscrites : famine comme méthode de guerre, attaques indiscriminées, punitions collectives. Ces transformations ont sauvé des millions de vies et elles continuent de le faire. Mais le droit produit un autre effet, plus ambigu : il rationalise la guerre. Aujourd'hui, une frappe n'est pas seulement tactique, elle est juridiquement évaluée, documentée, archivée, justifiée. La violence entre dans un univers où elle peut être mesurée, comparée, optimisée. On parle de dommages collatéraux, de risques proportionnés, de neutralisation ciblée. Le droit impose une forme de calcul, une froideur bureaucratique à l'usage de la force. Et c'est ici que réside le paradoxe. En encadrant la violence, le droit peut aussi contribuer à la rendre acceptable. Il crée deux catégories de violence, celle qui est illégale et condamnable, et celle qui est conforme au droit. Et cette seconde catégorie devient politiquement utilisable, communicable, justifiable. La guerre proportionnée, légale, collatérale maîtrisée est perçue comme plus acceptable. La violence devient administrable, une guerre moralement commentable, presque routinisée. Le droit voulait limiter la guerre et il l'a parfois, tout de même, rendu plus pensable. Le droit des conflits armés n'a pas éradiqué la guerre, il n'en avait ni la prétention ni les moyens, mais il l'a profondément redessiné. Il a modifié notre manière de classer les acteurs d'un conflit, notre manière de repenser les opérations militaires, notre manière d'évaluer la violence, notre manière de juger moralement un affrontement. Il a humanisé la guerre, incontestablement, il l'a rendue plus rationnelle, plus encadrée, plus calculée, mais il l'a aussi rendue plus pensable, plus organisée, parfois même plus acceptable. C'est l'ambivalence fondamentale du droit, un droit qui protège, mais qui, en organisant la violence, contribue aussi à la rendre praticable. Cette tension renvoie à une question plus large, au cœur même de ce sujet. Quand le droit redessine la guerre, qu'est-ce qu'il redessine vraiment ? Nos pratiques, nos représentations, notre conception de l'humanité, ou bien la carte morale du monde dans lequel nous acceptons de vivre. Car redessiner le monde par le droit, ce n'est jamais seulement tracer des règles, c'est projeter une vision de l'être humain, de ce qu'il peut tolérer, de ce qu'il doit protéger, de ce qu'il faut empêcher. Et une interrogation demeure, peut-être la plus importante. Si le droit façonne si fortement notre manière de mieux comprendre la guerre, existe-t-il encore une manière d'imaginer la paix qui ne dépende pas de ce cadre juridique ? Cette question rejoint les travaux de Steven Pinker qui montre, dans son ouvrage « La part d'ange en nous », que la violence humaine diminue sur le temps long grâce à l'essor de normes, d'institutions et de règles qui domestiquent les comportements. Dans cette perspective, le droit n'est pas seulement un outil de limitation, il devient un moteur historique de la réduction de la violence, un levier civilisationnel. Peut-être faut-il alors voir dans le droit humanitaire une étape, certes encore incomplète, d'un processus plus vaste où le droit ne se contente plus de canaliser la violence, mais contribue lentement à réduire l'espace où elle est jugée légitime. Et dès lors, une dernière question s'impose, la finalité du droit n'est-elle pas, au fond, d'œuvrer à l'éradication progressive de la violence en elle-même ? De préparer un monde où la guerre ne serait plus à encadrer, mais un phénomène devenu, enfin, inimaginable ? Peut-être que l'avenir du droit humanitaire se jouera précisément là, dans sa capacité non seulement à civiliser la guerre, mais à rendre concevable un monde où l'humanité n'aurait plus besoin de civiliser la violence, parce que la violence aurait cessé d'être le langage ordinaire des relations humaines.